Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien.
Guillaume Tabar, bonsoir Guillaume.
Bonsoir Julien.
Rédacteur en chef et éditorialiste au Figaro et David Revaud-Dallonne qui nous rejoint, rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Alors on va d'abord ensemble évoquer évidemment ce nouveau conseil de défense qui s'est tenu ce matin à l'Élysée. Les annonces seront faites demain par le Premier ministre. On évoque de plus en plus l'idée de ce couvre-feu national abaissé à 18h, comme c'est déjà le cas dans 25 départements, avant peut-être un tournevis plus sérieux les semaines suivantes. C'est à peu près d'ailleurs ce que disait ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Écoutez-le.
Nous sommes extrêmement vigilants face aux conditions hivernales, face aux variants qui circulent partout dans le monde. Et évidemment, quand nous considérons qu'il faut prendre des mesures pour continuer à freiner le virus, continuer à protéger les Français, nous les prenons.
Voilà, c'est acté ou pas ce couvre-feu, ou ça peut encore évoluer, Guillaume Tabar ?
Ça peut encore évoluer. Bon, là, on sent bien qu'on y avance. Et ce que je trouve intéressant en termes d'expression et de communication gouvernementale, c'est qu'on attend les annonces, et en même temps, ça fait quand même 2 jours que toutes les hypothèses sont mises sur la table. Ce qui est une manière à la fois de préparer l'opinion, de l'alerter, de la mettre en condition.
Mais c'est un peu le cas à chaque fois.
C'est un peu le cas à chaque fois, mais surtout dans un sens de durcissement, c'est pour éviter, je pense, l'effet choc de mesure. Si d'aventure... le confinement, enfin le couvre-feu à 18h ne concernait pas la totalité du territoire, mais quelques départements en plus, bah, tout le monde dirait « Ah bah ouf, ça n'est pas tout le monde ». Vous voyez, c'est pour gérer ça. Bon, après, sur l'impact lui-même des mesures, moi je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il faut quand même tenir jusqu'au bout aussi la double obsession, bien sûr, d'éviter une circulation trop forte du virus, mais quand même de faire en sorte que le pays puisse se tourner sur le plan économique. On voit bien comment... Déjà, Bruno Le Maire prévient que ce sera difficile d'obtenir le sursaut espéré de la croissance en 2021. Donc, si en plus on fait rien pour y aider,
ça peut très vite tourner à une situation chaotique. Hein. Vous voyez ce qui se passe en Angleterre, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Les chiffres de contamination sont très hauts. Moi, je suis surpris que le Premier ministre semble dire qu'il n'y a pas eu ou très peu d'impact des fêtes de fin d'année. Quand on voit les contaminations jour, on est à 19 000 cas quotidien de contamination, c'est le chiffre qui est tombé hier, Catherine Ney.
Ben oui, c'est beaucoup, mais tous les médecins qui viennent s'exprimer sur les télés disent à la fois c'est beaucoup, mais que c'est à peu près étal comme occupation des lits et les morts aussi, leur nombre n'est pas en augmentation. Donc on ne sait plus quoi penser des choses. Oui. Alors, apparemment, on attend de voir si Noël n'a pas impacté, n'a pas renforcé la pandémie. On ne sait pas encore les résultats des premiers de l'an. Enfin, on devrait savoir assez vite, mais il semble que non. Alors, est-ce qu'il y a plus de cas positifs? Parce que c'est vrai qu'on se teste plus.
Oui.
Mais autour de soi...
Il y a le variant quand même.
Oui, hein. Il y a le variant
anglais puis le variant sud-africain qui est encore plus terrible, qui inquiète énormément. Olivier Véran disait hier au Sénat que parmi tous les tests positifs, il y a 1% de tests positifs qui sont des variants anglais. Ça, c'est inquiétant. Et c'est vrai, David Revaud-Dallonne, qu'on observe une poussée de la part des scientifiques et des médecins qui demandent au gouvernement d'agir. Hein.
C'est vrai que sur les chiffres, en réalité, ils sont plutôt à l'étal. Vous citiez le chiffre de 19 000, c'est beaucoup, mais on a eu des chiffres dans cette...
Enfin, à l'étal, mais ça progresse quand même un peu.
Petit peu, hein. Vous aviez déjà, avant les vacances de Noël, pendant les vacances, certaines
on poussées. On était plutôt à 15 000 jours.
Certes, je crois que d'après ce qui commence à filtrer, les chiffres de contamination consécutives à la fête de Noël et au 31, effectivement, comme le disait Catherine, sont plutôt faibles. Il y a un petit rebond sur le 31, mais ce n'est pas apocalyptique. Mmh. Donc, grosso modo, si on regarde la situation sur le papier, on est plutôt pas mal par rapport à nos voisins. Et vous avez raison, Julien. La vraie question, c'est ce game changer, ce véritable changeur de paramètres qu'est le variant. Mmh. Parce que 1% potentiellement détecté, comme l'a dit Olivier Véran, c'est énorme et ça modifie absolument toute la statistique.
Delphrécy, par exemple,
voilà,
le président du conseil scientifique, dit « si on ne fait rien, on court à la catastrophe ».
Absolument.
Guillaume Tabar.
Oui, mais depuis le début, Delphrécy, c'est son rôle, de certaine manière, est du côté de l'alarme et donc des mesures de restriction. Il ne faut quand même pas oublier qu'au début de cette crise, il y a des mesures de restriction qui, par leur caractère brutal et sans discernement, ont provoqué quand même des dégâts psychologiques qui ne sont pas terminés.
Oui.
Et moi, je trouve qu'il y a eu quand même une inflexion plutôt heureuse de la part du gouvernement et notamment d'Olivier Véran, qui consiste à dire précisément... Tant qu'on peut éviter de durcir, évitons-le. C'est-à-dire que Si effectivement le 31, c'est une bonne surprise, pourquoi à tout prix vouloir durcir radicalement si ce n'est pas obligatoire?
Oui, on sait bien qu'il y a un temps de latence de 15 jours entre le moment où on prend des mesures et le moment où elles ont un impact, et inversement. C'est-à-dire que si on voit le nombre de personnes en réa augmenter, ça sera compliqué d'inverser la tendance dans un laps de temps relativement court.
Certes, nous prenons effectivement tous les chiffres. C'est vrai que le nombre de cas recensés de Covid augmente sensiblement. Vous le disiez, on est passé plutôt de 15 000 à 19 000. Mais pour l'instant, le nombre de personnes en réanimation, il reste autour de 2600. Alors, même il a même baissé quelques jours. Là, il augmente de quelques unités, voire de quelques dizaines. Mais la courbe n'est pas la même. Et le chiffre qui est, à mon avis, important, c'est quand même les cas de réanimation. C'est l'engorgement des hôpitaux. Parce que le virus en tant que tel circule, je veux dire, tant que ça ne sont que des formes relativement bénignes, par l'isolement, etc.
Le vrai juge de paix, ça sera le niveau d'impact du variant dans les contaminations chez nous en France. 18h39, on se retrouve dans quelques instants. Je voudrais aussi qu'on parle avec vous de l'impact de ce couvre-feu abaissé à 18h sur les commerces. Parce que ça n'est pas anodin, hein, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, la suite du débat des grandes voix du mercredi avec toujours Catherine Ney, Guillaume Tabar du Figaro et David Revaud-Dallone du Journal du Dimanche. On continue à parler de ce conseil de défense qui s'est tenu aujourd'hui à l'Élysée avec ses annonces attendues demain à 18h par le chef du gouvernement, Jean Castex, qui a d'ailleurs été interpellé aujourd'hui au Sénat et qui s'est passablement énervé. Écoutez-le.
Cherchez pas à juger notre stratégie vaccinale qui va prendre plusieurs mois. Et vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, vous le savez, on ne juge pas un match qui va durer 90 minutes à la deuxième seconde. Ça n'est pas possible.
Alors moi, il me fait un peu peur, parce que si on est à la deuxième seconde d'un match de 90 minutes, l'analogie avec l'année qui vient, on est mal emmanché.
Ça fait une semaine qu'il déroule la même image du match. Alors, quand il avait commencé il y a une semaine, il disait on est à la quatrième seconde. Donc si une semaine après, on n'est plus qu'à la deuxième seconde, c'est effectivement...
Et il disait aussi qu'il y aurait 1 million de vaccinés à la fin du mois de janvier. Et on en est loin.
On y sera sans doute. On y sera sans doute, nous dit le gouvernement.
Il faudrait que l'augmentation exponentielle continue fortement. Parce que
on est à 150 000 aujourd'hui. Vous avez vu le gap qu'on a établi en quelques jours.
Même si, effectivement, par rapport au premier jour calamiteux, c'est une forte progression, on est encore très très loin de la capacité d'arriver à 1 million d'ici à la fin du mois.
Alors, je voulais qu'on évoque quand même ce couvre-feu généralisé, si c'est confirmé, pour l'ensemble de la France à 18h. Parce que, évidemment, ça ne va pas faire les affaires des commerçants, on n'y pense pas forcément, mais la grande distribution, l'habillement, les petits commerces, ça va être un choc pour eux. Parce que le créneau de 17h30 à 20h, ça représente un tiers des achats alimentaires. Ça change complètement la donne, ça aussi, dans l'organisation de nos vies, Catherine.
Mais ça, tout le monde le sait. Autour de la table, vous savez très bien qu'en sortant du travail, on va acheter le pain, on va dans tous les commerces de bouche, et même on peut acheter. C'est à ce moment-là qu'on voyait les gens dans les magasins.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'on n'imagine pas, moi, je n'imagine pas à Paris, tout soit fermé à 18h.
Oui.
Écoutez, là, aujourd'hui, les gens sont assez déprimé. Il fait mauvais, il fait froid, il y a de la pluie, le ciel est encore noir.
Les perspectives sont mauvaises.
Alors là, si en plus on généralise, moi je pense qu'il peut y avoir d'autres départements, c'est très dur aussi, mais je crois que dans la capitale et dans les grandes villes, c'est particulièrement difficile à faire observer ce couvre-feu à 18h. Alors moi je veux dire que cet après-midi, ou ce matin plutôt, le président qui recevait les boulangers pour la galette des rois, a dit que les restaurants rouvriront dès que possible. Donc, vous voyez...
Voilà, ça, c'est un sacré engagement de président.
Voilà, donc ça ouvrira, ça réouvrira.
Évidemment, Paris est une ville, je dirais pas une ville de cadres, parce qu'on trouve de tout à Paris, mais il y a beaucoup de cadres, des gens qui ne quittent pas le travail à 16h ou 17h. Donc, effectivement, problème aussi, au-delà de la question des commerces et des approvisionnements, problème de transport. Vous imaginez un peu l'engorgement automobile dans les transports en commun, etc.
Non, mais il n'y a pas Paris. Hein. Le lycée, par exemple, partout en France, il y a des cours jusqu'à 18h au lycée.
Toutes les grandes villes, en réalité.
Ça demande une organisation qu'on ne mesure pas. Hein, c'est-à-dire changer les horaires des étudiants, changer les horaires des lycéens, changer les horaires de travail aussi. Ça veut dire qu'il va falloir laisser les gens sortir plus tôt. Et puis les courses, effectivement. Oui, je ne sais pas quand vont se reporter les gens pour faire leurs courses.
Oui, puis accessoirement, n'oublions pas que chaque commerçant est lui-même un client puissance d'autres commerces. Donc si lorsqu'un commerçant termine sa journée, il ne peut plus lui-même faire ses courses, y compris d'alimentation, c'est gênant. Puis moi, Il y a une question toute bête que je me pose, mais c'est sans doute parce que je ne connais pas assez le sujet. Je n'arrive pas à comprendre comment mettre un même nombre de personnes dans une heure de magasin est moins dangereux que d'étaler ce même nombre de personnes sur 3 heures d'ouverture.
Vous savez, il y a l'idée aussi que les grandes surfaces pourraient avoir une ouverture pérenne le dimanche, par exemple, pour les achats se reportent sur le week-end.
Il y a un certain nombre d'achats qui sont quotidiens. Ensuite, le dimanche, déjà, la règle du repos dominical a été sérieusement quand même entamée au fil de différentes lois. Si maintenant, on banalise totalement le dimanche, je pense que ce sera un autre recul de civilisation qui ne sera pas un progrès. Et dans cette crise, on a plutôt besoin de préserver un certain art de vivre plutôt que de basculer dans une
uniformisation. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, qu'on pourra éviter un reconfinement ? David Revaux-Lalonde.
Alors, je vais vous faire une réponse, un petit peu de normand, mais je pense que oui, sauf si, bien sûr, les chiffres démontrent que. D'ailleurs, vous avez remarqué que le gouvernement tient le même discours. Ils disent « nous ferons tout pour éviter ce reconfinement ». C'est d'ailleurs ce qui s'était passé, souvenez-vous, pendant tout l'été et toute la rentrée de septembre. Le gouvernement, tous les ministres nous assuraient qu'il n'y aurait pas de reconfinement. Et patatras, ils ont été bien obligés de le remettre en place. Pourquoi ? Parce que la situation, vous le disiez tout à l'heure, Julien, à l'instant T, je pense que les chiffres que nous avons, c'est 19 000 chiffres, les chiffres des hospitalisations, de la réanimation, des morts, ne justifient pas au jour d'aujourd'hui un reconfinement total.
Parce que c'est
rien ne dit que dans 15 jours, ce sera le
On
le
est
même.
Un peu une anomalie aujourd'hui en Europe. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, d'ailleurs, c'est peut-être à mettre au crédit du gouvernement. On gère mieux la crise, là, pour le coup, que les autres. Parce qu'on a beaucoup critiqué la gestion de crise du gouvernement. Pour le coup, ça va plutôt bien.
Juste un petit mot là-dessus. Vous avez absolument raison. Quand le gouvernement ne gère pas bien cette crise, il faut le dire. C'est le cas, on vous l'avait dit tout à l'heure, sur l'accélération du rythme des vaccins. Je trouve que les mesures qui ont été mises en place au mois de novembre et décembre, c'est-à-dire confinement et couvre-feu, c'est ça qui nous a permis d'éviter un rebond épidémique pendant les fêtes de Noël, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, en Angleterre, bien sûr, en intégrant cette nouvelle dimension du variant britannique.
Il y aura un effet de sens intéressant à observer. Si demain, à 18h, le Premier ministre annonce un couvre-feu à 18h, il va falloir aussi qu'il avance sa conférence de presse pour les prochaines semaines. 18h46.
Oui, ça sera un signe, on le saura demain matin.
Il faudra avancer en soi.
On se retrouve, oui, sans doute. On se retrouve dans un instant. On parlera de l'opération Barkhane. Les Français n'y croient plus. À tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.